Bonjour tout le monde. Juste avant qu'on commence ce culte, vous avez peut-être tous lu ou vu l'affiche qui était projetée là. Donc si vous avez encore deux, trois affaires pour la confection des cadeaux de Noël, les paquets de Noël, il faut les amener en bas. Je pense que vous avez tous lu, donc c'est tout bon. Voilà, soyez les bienvenus dans cette salle, dans cette église ce matin. Bienvenue particulièrement à Betty Monnier pour ta présence ce matin, après cette semaine et spécialement lundi passé. Nous sommes en pensée avec toi et toute ta famille. Ce matin, il va être question d'un certain sujet qu'on va parler pendant le culte, mais pour les enfants, on va parler de la lumière. Mais est-ce que vous savez comment on chasse le noir? Comment on fait pour chasser le noir ou la nuit? Avec une lumière, moi j'ai une machine à chasser le noir. Au fait, j'en ai plusieurs là-dedans. Tu ne me crois pas, hein? Regarde, alors j'en ai une grande là, ici. Voilà. J'ai une lumière, une machine à chasser le noir. J'en ai différentes tailles. J'en ai une toute petite ici. Mais si c'est tout noir, on verrait bien, c'est toute petite lumière. Hein? Et autrement, j'ai encore une, celle-là. Mais ça, il faut une allumette ou un briquet pour la mettre. Mais celle-là, je vous garantis qu'elle peut faire une grande lumière. Si je mets le feu au rideau dans la maison, ou bien à la maison, ben ça va faire une sacrée lumière. Hein. Et le noir, il va vraiment filer. Hein. Ou bien alors celle-là, mais il y a un problème avec celle-là. Il manque quoi? Qu'est-ce qui manque, Robin? Hein? Là, il manque quelque chose à cette... Hein, sinon... Ah, il faut la mettre dans quelque chose, hein. Puis après, il faut appuyer sur un bouton, il faut être relié à l'électricité. D'accord, voyons voir, est-ce que j'en ai encore une autre? Ah ouais, j'ai celle-là, c'est quand on fait de la marche, hein, on peut mettre sur la tête. Et puis, on peut la faire comme ça, c'est pas mal, hein. Et puis autrement, j'en ai une autre ici, j'ai une autre lumière. Ça, c'est pour le truc quand on met pour aller à vélo, hein, là-dessus, hein. Mais le problème avec celle-là, il faut qu'il y ait une source de lumière. Parce que comme ça, s'il n'y a rien qui reflète, avec celle-là, elle éclaire là-dessus. Quand on l'éclaire, puis si c'est tout noir, on verrait bien que ça reflète. Hein. Voilà, peut-être. Au bout d'un moment, on va emmagasiner. Dans une de nos chambres à la maison, il y a un tas de petites étoiles qui ont été collées au plafond depuis des années, hein, par Émile, hein, qui est mon beau-fils. Hein. Il est venu quand il est intéressé à Floriane, notre fille. Il a mis des étoiles. Alors, dès qu'on met la lumière, tac, ça brille comme si on était qu'on voyait le ciel la nuit. Voilà, donc, vous voyez, on va parler de la lumière. Donc, moi, j'ai des machines à chasser la lumière. Et puis, il sera question... Hein? Ouais. Chasser le noir. Ah, j'ai dit chasser la lumière. Il y en a un qui écoute. Hein? Bravo. Voilà, je lirai encore juste un verset que Jean de 1, verset 5 à 8. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Mais il n'était pas la lumière, Jean, mais il était le témoin de la lumière. Il était un peu comme celui-là, hein, il était un peu le témoin de la lumière. Il fallait que quelqu'un éclaire pour qu'il y ait la lumière. Voilà, comme introduction au thème de tout à l'heure. Et puis les enfants, vous pouvez toujours continuer à discuter, peut-être poser des questions à vos papiers mamies ou à vos moniteurs à l'école du dimanche, parce que Jésus, hein, on le compare beaucoup, on dit qu'il est la lumière du monde. Donc vous pouvez leur poser des questions. Voilà, j'aimerais, pour commencer ce moment de louange, ce temps où on va adorer le Seigneur, j'aimerais lire avec vous le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son berger. C'est le troupeau de son pâturage. Je répète, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite dans cet esprit à passer ce moment de louange ensemble.
Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est tu ne failliras jamais. Oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier.
Je vous propose de vous asseoir un petit moment. On va prendre un dernier chant qui n'est pas bien connu encore, mais qui est super beau et dont les paroles sont vraiment, parlent vraiment, je dirais. Donc, c'est un merveilleux nom. On peut le mettre au bimère déjà, Thierry, s'il te plaît. Et si vous le connaissez, ben, je vous propose de le chanter avec nous la première fois. Sinon, vous l'écoutez et puis ensuite, on pourra se lever puis le chanter tous ensemble.
Thank you.
Avant de poursuivre, j'aimerais encore prier pour cette matinée. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes maintenant de nous rassembler tous ensemble, venant de différents milieux, de différents endroits. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu nous as précédés. Et Seigneur, nous voulons aussi maintenant être sensibles à ce que ton esprit veut nous dire au travers des mots que David, porteur, va nous amener. Amen.
Pas d'adulte qui aimerait aussi s'échapper à ce moment du culte. Non. J'aimerais lire avec vous Jean chapitre 8, versets 12 à 18. Jésus, à nouveau, leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas recevable. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant, mon témoignage est recevable parce que je sais d'où je viens et où je vais. Tandis que vous, vous ne savez ni d'où je vais, ni...
juger de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi celui qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est d'ailleurs écrit que le témoignage de deux hommes est recevable. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage lui aussi. Amen. On a déjà mentionné le fait qu'il y avait hier donc un grand événement à Fribourg qui s'appelait One. J'étais impliqué l'après-midi dans un groupe de louanges et on était déjà là vendredi soir jusqu'à 22h. Je suis rentré à Genève à minuit. Aussi hier soir, c'était de nouveau minuit avec une longue journée parce qu'on est parti aussi de nouveau à 7h hier matin. Donc on vient de vivre quelques-uns de nuits assez courtes. Et... voilà, juste au cas où, il y a mon français qui me perd à un certain moment, qui me laisse carrément, je passe en anglais, ne vous faites pas de soucis, il se peut que je revienne normal après quelques secondes. Non. Avec cet événement, bien sûr, mon épouse qui n'était pas avec moi, ça voulait dire que lorsque je rentrais à minuit, il fallait que je trouve le lit dans la chambre quelque part parce que c'était tout noir. Il ne fallait pas que je mette de la lumière parce que je ne voulais pas la réveiller. Et donc, deux nuits de suite, on apprend un tout petit peu où sont les meubles dans le noir, etc. Heureusement, à l'avance, je connaissais déjà l'emplacement des meubles. Lorsqu'on se trouve à l'étranger, par exemple dans une chambre d'hôtel et on doit se lever pendant la nuit, et on a soit son conjoint ou quelqu'un d'autre. Par exemple, je viens de revenir d'un voyage en Israël. On était 16 artistes, allés à la rencontre d'artistes arabes, chrétiens et juifs. Donc, j'ai partagé une chambre avec un frère. Et lui, il n'avait pas besoin de dormir autant que moi. Donc, je me suis réveillé une fois à 1h30 du matin. Il était toujours en train apparemment de lire des choses. Mais il était passé à la salle de bain, mais je n'étais pas trop sûr. Et moi, je n'arrivais pas à me rendormir, donc je dis, mais tant pis. J'éteins la lumière, donc je l'ai éteint. Et j'ai appris le lendemain matin qu'il avait un peu du mal à retrouver le lit, parce qu'il ne connaissait pas la chambre. Être dans les ténèbres, dans le noir, on ne sait pas justement où on va. Et c'est vrai que tout d'un coup, lorsqu'on peut allumé. Si on ne va pas déranger quelqu'un, on dit « Ah ben oui, c'était là. Ah ben voilà, c'est pour ça que je n'arrivais pas à mettre un pied sur un autre, devant un autre. » Et ça change tout lorsqu'on a la lumière. Jésus, je vais revenir à Jésus. On parle de beaucoup dans la Bible de lumière et de ténèbres. L'image qui est affichée, c'est une illustratrice qu'on a rencontrée à Jérusalem, qui fait des dessins pour des livres d'enfants. Et ça, c'est donc un de ses dessins, avec les paroles du début de Genèse. Et justement, dans la Bible, dès le départ, Dieu vit que la lumière était bonne, ce qu'il a créé, parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu séparera la lumière d'avec les ténèbres. Lorsqu'on arrive donc à ce verset en Jean chapitre 8, verset 22, Jean chapitre 8, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il est toujours intéressant de savoir à quel moment dans le ministère de Jésus est-ce que Jésus a prononcé ces paroles. Parce qu'on a, souvent on les prend un tout petit peu hors du contexte, on a ces dictées de ce qu'a dit Jésus et on prêche dessus, on parle dessus. C'était lors d'une fête du Sukkot, la fête des cabanes, où les images d'eau et de lumière étaient très importantes. Au début de la fête, on aurait allumé une menorah ou un candélabre, une espèce de, non pas forcément le menorah avec cette bougie, mais peut-être trois ou quatre, etc. Un thème donc commun entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'idée de ténèbres et de lumière. Déjà dans l'Évangile de Jean, on trouve plusieurs paroles de Jésus où il dit « Je suis ». Je suis. Ça, on va regarder ce matin. J'essaie de penser à d'autres. Je suis. Merci. Je suis le pain de vie. Je suis. Le chemin, la vérité, la vie. Je suis. Plus tard. Mais la porte. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis. Le chemin, la vérité, la vie, je suis le vrai cep. Si vous vous souvenez, à quel moment est-ce que Dieu s'est révélé en tant que je suis? À Moïse, devant le buisson ardente. Et le nom de Dieu qui était pour le peuple d'Israël, se rendre compte, c'est que ce Dieu qui les aimait tant, l'Éternel, était celui qui est, qui était, qui viendra. Lorsque Jésus reprend cette idée pour lui-même, on est en train de revoir un petit peu comment Jésus a compris sa relation avec le Père. Je suis la lumière du monde. L'arrivée du Messie était comprise en termes de lumière. Un texte qu'on lit souvent à Noël vient d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, parfois lorsqu'on parle comme ça, Jésus dit « Je suis la lumière du monde », on peut parfois penser que peut-être un jour comme ça, il était sur la montagne, tranquillement autour de la Galilée, où il a prononcé de belles paroles et puis de sermons sur la montagne, et que tout va très bien. Je suis la lumière du monde. C'est super de penser que Jésus est justement la lumière du monde. On pense qu'il aurait prononcé ses paroles dans la paix, tout seul avec ses disciples. Mais au lieu de se trouver sur une montagne calme, quelque part en Galilée, Jésus se trouve à Jérusalem face à ses adversaires. Parce que vous avez vu dans le texte que je viens de lire, le verset suivant, tout de suite, les pharisiens ne répondent même pas, ne réfléchissent même pas à ce que Jésus vient de dire. Ils commencent à mettre en question le témoignage de Jésus sur lui-même, en citant la loi pour dire « il faut plusieurs témoins pour que ton témoignage soit vrai ». Jean avait déjà écrit au début de son évangile que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est faire ce que Roger a lu au début de notre culte. La lumière n'est pas naturelle chez les humains. L'idée, c'est que lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », c'est que le monde entier se trouve justement dans les ténèbres depuis la chute. Jésus avait dit sur lui-même, avec Nicodème, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. » Le week-end dernier, on discutait avec quelques amis et notre ami qui était là nous racontait comment plusieurs de ses collègues de travail vivent des circonstances exceptionnellement difficiles depuis un certain moment et cherchent des solutions et des réponses chez les médiums, chez les pratiques douteuses, prêts à tout faire, sauf bien sûr d'aller à la lumière, qui est Jésus. Peut-être ils ne connaissent pas Jésus. Peut-être le seul moyen qu'ils vont connaître Jésus, c'est à travers notre vie, notre témoignage. Mais ce qui est naturel, c'est d'aller partout, sauf d'aller à Jésus, sauf d'aller à celui qui a la réponse. Ils ont même refusé l'idée ou l'offre de prier avec eux. On a aussi une voisine qui passe par des situations un peu difficiles. Et récemment, mon épouse s'est proposée de prier pour elle. Elle n'était pas très ouverte. Jusqu'à un certain moment, ça n'allait pas du tout. Elle se trouvait dehors en train de pleurer. Et ce moment-là, elle a accepté. Mais voilà. En tant qu'humain, on va partout ailleurs que là où Dieu veut qu'on le rencontre. Cette semaine dernière, c'était la fête de Halloween. Alors, les Américains dépensent plus de 5 milliards de dollars chaque année à Halloween. C'est devenu la deuxième fête commerciale du pays. Dans la deuxième ville d'Irlande du Nord, d'où je viens, il y avait une fête qui durait 9 jours cette année. Et on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une fête tranquille, neutre, comme ça, où on aime bien déguiser les enfants, qu'il s'agit d'une fête neutre. Mais à l'origine, cette fête a commencé il y a 1900 ans, en Angleterre, en Irlande, je m'excuse, et aussi au nord de la France. Halloween, c'est la veille de All Hallows Day, ou la Toussaint, célébrée le 1er novembre. Mais c'était une célébration celte de la nouvelle année nommée Samhain. Et les druides y voyaient la plus grande fête de l'année, un jour où les âmes des morts pouvaient se mêler avec les vivants. C'était lorsque Saint Patrick et d'autres missionnaires chrétiens arrivaient que la population commençait à se convertir au christianisme et la fête commençait petit à petit à perdre sa popularité. Pour contrer l'influence ténébreuse de cette fête, les chrétiens avaient mis l'accent sur la Toussaint pour célébrer les saints le 1er novembre. Un mot saint qui est utilisé pour parler justement des chrétiens plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Et récemment, un écrivain voulait écrire un article justement sur Halloween, a décidé d'aller voir si encore aujourd'hui cette journée est importante pour une association américaine de sorcières. Et il était choqué par ce qu'il a trouvé, que c'est bien, bel et bien, une fête importante pour le monde des ténèbres, pour ceux qui s'y mêlent. Il suffit de regarder les infos pendant une semaine pour être rappelé que le monde des ténèbres existe bel et bien. Des attentats, une attaque sur une synagogue, des attaques presque quotidiennes en Afghanistan, en Syrie, en Yémen, en Irak. Notre monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est les ténèbres ? Les ténèbres, On était rappelé là pour ceux qui étaient à One hier, lorsqu'il y avait un des orateurs qui a parlé de la science et de la théologie. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Là où la lumière ne paraît pas avoir fait son entrée. L'apôtre Paul a rappelé à l'église d'Éphèse, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'on pense à Jésus, Jésus aussi a dû passer par un moment difficile où il a dû lutter avec les ténèbres dans le jardin de Gethsémané, où il a dû lutter aussi avec l'idée de boire cette coupe amère ou pas, où il semblait que Dieu l'avait laissé tout seul, peut-être déjà dans le jardin de Gethsémané, mais aussi sur la croix. Et lorsque les brigands sont arrivés pour l'arrêter, Jésus leur a dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Lors de sa crucifixion, l'évangile de Matthieu nous dit que de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y avait des ténèbres sur tout le pays. La lumière du monde a été éteinte pendant 3 jours. Cette idée revient d'une liturgie dans l'Église primitive, déjà dans le 3e, 4e siècle, à Pâques, et passait toute la nuit, du samedi saint jusqu'au dimanche de Pâques, à lire les Écritures. Il n'y avait pas de lumière, pas de bougie, et c'était lorsque la lumière du jour, donc le dimanche matin, est rentrée, qu'ils ont commencé à célébrer la résurrection. Mais pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire pour Jésus d'être à la croix, pour prendre tout le péché, tout le mal, de justement lutter avec les ténèbres, l'Église primitive s'est laissée dans le noir à essayer de penser à ça. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans un monde de ténèbres, c'est un message d'espoir que Jésus nous annonce. Il a dit, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Une autre traduction dit, celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Suivre Jésus, c'est vivre dans la lumière. Moi, la lumière, dit Jésus, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. La lumière et la vie sont alors étroitement liés. Avoir la lumière, c'est avoir Jésus. Ceux qui suivent Jésus seront délivrés des ténèbres pour justement pouvoir vivre dans la lumière. Et l'arrivée de la lumière implique une transformation permanente. Lorsque la lumière est toujours là, on en est conscient. Ça nous éclaire le chemin, on sait où on va. Paul a dit autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Alors, comment faire ça? Comment marcher dans la lumière? Jésus a aussi dit à Nicodème, celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Vivre dans la lumière, c'est rester près de Jésus en écoutant sa parole. Un verset qu'on aime beaucoup citer du psaume 119, peut-être le seul verset que vous connaissez par cœur du psaume 119, c'est le verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Une autre traduction anglaise dit « Par tes paroles, je peux voir où je vais. Ils éclairent mon sentier dans les ténèbres. » Ailleurs, dans le même psaume, le psalmiste dit « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. » Il est vrai que parfois, je ne sais pas si ça existe en français, mais on a une expression en anglais que lorsque on a compris, on a dit « the light's gone on ». On vient d'allumer la lumière. On a compris. Rester près de la lumière, c'est nourrir ses pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, a dit Paul aux Philippiens, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Rester près de la lumière, c'est aussi être prêt à lui confesser nos péchés. On pense souvent que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est converti, qu'on est sauvé aussi une fois pour toutes des péchés. C'est vrai que Jésus nous a ôté nos péchés, mais il y a toujours la présence du péché. On est toujours humain et on va lutter avec ça jusqu'à ce qu'on arrive au ciel où finalement le péché n'y sera plus. On a besoin toujours de nous rendre dépendants de celui qui est la lumière. Parce que comme je l'ai dit de manière naturelle, nous ne répondons pas, nous ne réfléchissons pas toujours selon la lumière. Notre nature humaine nous permet justement de ne pas faire ça. Jésus connaît nos faiblesses. Il a dit « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. » Mais l'apôtre Jean a dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, autrement dire si nous restons près de Jésus, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas parce que je vais à l'église le dimanche matin ou parce que j'ai mis une fois dans ma vie ma confiance en Jésus que je suis parfait. C'est le sang de Jésus-Christ qui me purifie. C'est en restant près de lui que je peux mener une vie qui lui plaît. C'est en restant près de la lumière que je le laisse entrer dans toutes les parties de ma vie. Comment marcher dans la lumière? C'est aussi en laissant la lumière de Jésus briller à travers nous. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais ailleurs, il a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, lorsque Jésus a dit cela, il se trouvait sur une montagne. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Marcher dans la lumière, c'est le laisser briller à travers nous. Et comme j'ai dit, pour certaines personnes qui préfèrent les ténèbres, peut-être la seule lumière, c'est nous. Le Christ qu'ils vont rencontrer, c'est à travers nous. Est-ce que nous sommes prêts à laisser la lumière de Jésus briller à travers nous jusque dans leur situation? Marcher dans la lumière, c'est laisser pénétrer sa vie dans chaque partie de notre vie, le laisser demeurer en nous. Pour certaines personnes qui ont assisté hier à One, ils ont vu ce slide juste à la fin. Ah, c'était la fin de l'après-midi. Voilà. Il y avait un camarade entre moi et l'orateur, j'arrivais pas à faire l'écran, mais quelqu'un avec qui je venais de chanter était juste devant moi et a fait une photo du slide, et grâce à son intelligence, on l'a aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'elle a repris ce texte que justement que j'avais préparé pour ce matin. En parlant des sciences, il a parlé de toutes sortes de choses, bien sûr, mais ce que j'ai retenu, ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait donc par rapport au soleil, que le soleil pourrait représenter le Père, donc la source de lumière. Où est le Père? Il est au ciel. Les rayons sont le Fils, parce que la lumière est venue sur terre. La source de la lumière. Et puis, le Saint-Esprit, c'est la lumière en nous, la chaleur, parce que sans chaleur, il n'y a pas de vie. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, et si vous voulez connaître plus de détails, vous pouvez parler avec Lauriane ou avec d'autres personnes après qui ont mieux compris que moi ce qu'il était en train de dire. Bientôt, nous allons chanter un chant Brio Jésus. Graham Kendrick l'a écrit il y a une trentaine d'années pour justement réfléchir à cette idée de la lumière qui brille à travers nous, et c'est aussi une prière. Brio Jésus, remplis ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, remplis nos cœurs. Avant d'aller plus loin et pour conclure, j'aimerais prier avec vous. On va prier ensemble. Seigneur, conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Béni sois-tu, Seigneur, grand Dieu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes commandements font mes délices, ta grâce ma plus grande joie. Remplis-nous de cette lumière de joie, cette flamme chaleureuse, cette vive clarté, ton Saint-Esprit, Esprit de vérité, conseiller que le Christ nous a envoyé. Dirige-nous sur le sentier de tes commandements, sur le chemin de ta volonté, par Jésus-Christ, notre Seigneur, la lumière du monde. Amen.
Je vous invite à passer un moment maintenant, suite à ces belles notes de musique, à poursuivre cette réflexion, que ça peut être résonné en vous, que vous le fassiez en silence, n'ayez pas peur du silence, ou ceux qui désirent le faire à haute voix le fassent. Passons un petit moment maintenant par rapport à ce qui était dit. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, pour ce que tu as révélé. Merci parce que je sais d'où tu viens et qui tu représentes. Merci parce que tu es ma lumière. vous invite à poursuivre avec un chant, le numéro 788. Je vous invite à vous lever. Nous voici aussi devant ce repas, c'est aussi l'occasion de continuer à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, le prix payé pour moi, comme on vient de le chanter. C'est vrai que pour moi, c'est un moment où je peux venir devant Dieu. C'est un moment où de grâce, c'est un moment où je peux recevoir et je peux me souvenir de ce qu'il a fait pour moi. Et en retour, je peux dire ma grâce et mon amour pour ce qu'il a fait pour moi. Ce repas est vraiment comme un passage de ces ténèbres, ces quelques heures qui étaient devant Jésus, qu'il allait les vivre, et ensuite avec cette sortie glorieuse, le troisième jour. Et c'est ce moment qui nous a demandé de nous rappeler. J'aimerais lire une prière que j'ai trouvée dans un livre. Je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce pour ta délicatesse, pour ton amour sans tapage. Tu es toujours présent, sans être pesant. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu dispenses dans ta tendresse discrète. Je te rends grâce pour les choses simples de la vie, la roseille du matin et la paix du soir, la lumière et le silence, l'eau et le pain pour la route, le sourire et la main tendue. Je te rends grâce à toi qui as tout offert gratuitement, à toi qui t'es donné, livré, sans condition. Seigneur, je te rends grâce pour le souffle qui m'anime. Il me serait difficile de vivre sans respirer. Qu'ainsi ta grâce soit ma respiration quotidienne et mon élan vers toi et vers les autres. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, a dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour le prix que tu as payé pour nous. Merci que tu étais prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Tu as pris toute cette souffrance sur toi parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur pour ton amour qui nous a donné le salut en toi. Merci qu'aujourd'hui tu es ressuscité, que tu es avec nous par ton esprit. Merci pour tout ce que tu as accompli, que nous pouvons être purifiés de nos péchés grâce à ton sang que tu as versé pour nous. Merci Jésus.
Je vous invite à partager ce pain, ce vin. Faites-nous signe pour ceux qui veulent boire à la coupe. Et au centre, c'est du jus de raisin. Si je peux avoir peut-être deux personnes pour nous aider. Je vous invite à lever. On va chanter ensemble « Seigneur par la clarté ». Quoi de plus approprié. Et pendant ce temps, nous passerons les cornets, là où les petits sacs pour notre offrande. C'est l'occasion aussi de continuer à louer le Seigneur. Seigneur, mon cœur déborde de reconnaissance pour tes dons et tes bénédictions de toutes sortes. La reconnaissance du cœur et des lèvres serait insuffisante si je ne mettais pas ma vie à ton service pour te rendre témoignage par mes actions. À toi la gratitude et la louange, car tu as sorti de son néant un être sans valeur tel que moi pour en faire ton élu. Et tu m'as rendu heureux dans ton amour et dans le sentiment de ta présence. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Je crois que Johan vient d'arriver. Merci pour les annonces. Je vous ai aussi oublié de mentionner ce matin toute l'équipe de la communauté qui donne un coup de main à la KO, à la kermesse, pour tous ceux qui se sont impliqués hier et encore aujourd'hui. Merci.
Simplement vous dire que nous avons appris, j'ai appris hier soir en rentrant de la journée One, le décès hier de Henri Gensch. Le service aura lieu probablement dans la semaine et certainement au CEPOM. C'est Claude qui conduira ce temps. J'aimerais simplement prier. Nous voulons prier ensemble, Seigneur, pour Bertie et les siens, dans la peine, dans la tristesse. Et nous te demandons de développer sur cette famille les richesses de tes consolations, s'il te plaît. Nous sommes reconnaissants pour la présence avec nous ce matin de Betty Monnier. Et nous te demandons aussi pour toute la famille Monnier la consolation qui vient de toi, des forces renouvelées jour après jour. Et nous nous souvenons de l'espérance formidable de la résurrection, de la vie éternelle, de l'éternité à tes côtés, parce que tu as dit, Seigneur, que là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi. Et nous voulons garder ça en ligne de mire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je profite juste de vous dire que je vais partir rapidement pour rejoindre l'équipe à la KO. Donc on n'aura peut-être pas l'occasion beaucoup de se saluer ce matin.
Alors ce matin, les enfants ont confectionné les paquets de Noël pour les paquets enfants. Et puis, il y a encore le 7 et 14 novembre, 14h à 16h30, pour les paquets adultes. Vous avez l'inscription qui est sur le panneau dans le foyer. Voilà, le 11 novembre, donc dernier délai pour déposer les articles. Voilà, on passe aux annonces un peu plus officielles. Donc, pour mémoire, le mémo que vous avez reçu, soit en version papier qui était dans le foyer la semaine passée, soit par ActuMérin, ou que vous retrouvez dans la partie membres sous documents. Ensuite, la kermesse œcuménique, vous avez encore aujourd'hui à midi ou cet après-midi pour y passer. Donc, l'église a deux stands sur place. Mardi à 14h30. Donc un témoignage de Marjorie Weffler au fil d'argent où tout le monde est bienvenu. Et puis aussi mardi, les ateliers bibliques à 20h. C'est le dernier de la série, c'est ça ?
C'est ça, une soirée plutôt d'échange et de réflexion de suite. Donc n'hésitez pas à venir avec vos questions, vos réflexions, vos partages sur les trois thèmes qui ont été abordés les précédents mardis.
Et puis, samedi 10 novembre à 20h, ici à l'église, le concert de soutien du groupe de jeunes CTT et GPS. Et puis, donc, la garderie La Framboise cherche toujours un trésorier. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent s'adresser à Claude Pernigoni, qui, je suppose, est à la kermesse. Voilà. Merci.
C'est le moment de la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Jésus dit : Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.